9h21 à Paris, on va lire ensemble la presse française avec Frédéric Couteau. À la une, Frédéric, Merkel, l'européenne.
À un an du départ de la chancelière, l'Allemagne prend ce mercredi la présidence tournante de l'Union et à cette occasion, Angela Merkel pourrait bien laisser son empreinte. En effet, peut-on espérer, on le dirait, s'exclame la Croix, après bien des années où l'Union européenne a pataugé dans les contradictions d'intérêts nationaux à courte vue, plusieurs conditions semblent réunies pour qu'un seuil soit franchi en direction d'une plus grande solidarité des États membres. La chance et la malchance y sont pour quelque chose, relève le quotidien catholique. Côté malchance, une crise sanitaire qui va déboucher sur une violente dépression économique et en même temps un terrible passage à vide de la coopération internationale dû à la rivalité entre des puissances auto-centrées, les États-Unis de Donald Trump, la Chine de Xi Jinping, la Russie de Vladimir Poutine. Pour faire face, poursuit la Croix, l'Europe ne peut compter que sur elle-même, mais c'est là où la chance intervient. Il se trouve qu'à la tête du pays le plus puissant de l'Union, l'Allemagne, se trouve une chancelière en fin de parcours politique. Elle n'a donc personnellement rien à perdre en termes politiques. Angela Merkel a visiblement pris la mesure de l'enjeu qu'il faut relever. Elle a pris, avec Emmanuel Macron, l'initiative de ce fameux fonds de relance pour aider les pays les plus déstabilisés par la pandémie, acceptant la mutualisation de l'endettement nécessaire à l'opération.
En effet, pointe le Figaro, jusqu'ici, l'Allemagne ne s'était jamais départie du rôle de la fourmi dans la fable de La Fontaine, refusant toute mutualisation de la dette après la crise financière de la dernière décennie.
Et aujourd'hui, elle entame son semestre donc de présidence de l'Union, sans tâche plus urgente que d'enrôler les autres pays dits frugaux, Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède, dans le plan de relance européen de 750 milliards. C'est une bonne nouvelle pour l'édifice européen, s'exclame le Figaro. Considéré comme un canard boiteux il y a encore 6 mois, la chancelière dispose d'un capital politique renouvelé à la faveur de sa gestion prudente et efficace de la pandémie. Elle en aura besoin pour traduire en acte la solidarité extraordinaire qu'exigent les circonstances. Au terme de presque 15 ans de pouvoir, c'est sa dernière chance, pointe encore le Figaro, de laisser une trace en Europe, non seulement en aidant les 27 à surmonter la crise, mais en les tournant vers un futur d'innovation et d'indépendance. Appliquer à l'Union européenne un peu des ambitions et des méthodes allemandes, conclut le Figaro, ne risque pas de nuire.
C'est un vrai virage à gauche, commente pour sa part le commissaire européen aux affaires économiques, Paolo Gentiloni, interrogé par Libération.
L'élément déterminant dans ce processus a été la rapide prise de conscience allemande, affirme-t-il. La prospérité et la stabilité de l'euro sont devenues pour elle plus importantes que les tabous qui ont été dominants dans les 20 années précédentes. Ce n'est pas la première fois que Merkel montre qu'elle est capable de changer d'avis pour gérer une crise, relève encore Paolo Gentiloni. La relation franco-allemande a joué un rôle fondamental dans sa prise de conscience, qu'il était nécessaire de disposer d'un moteur commun de politique économique, en l'occurrence ce fameux fonds de relance pour éviter la divergence entre les économies.
Conséquence de la crise sanitaire en Europe, Airbus supprime 15 000 emplois, c'est la une de la Dépêche.
Oui, 15 000 suppressions d'emplois, dont 5 000 en France, sacré premier constructeur mondial de l'année 2019. L'avionneur européen est contraint, donc, quelques mois seulement après sa victoire sur Boeing, de réduire drastiquement la voilure, soupire le quotidien toulousain. Le décrochage est sans précédent dans l'histoire d'Airbus. Il y aura évidemment un avant et un après, pointe la Dépêche, qui se traduira par la destruction de 15 000 postes chez le constructeur et peut-être autant dans les entreprises de la sous-traitance et les secteurs sur lesquels ruisselle une partie des profits de cette industrie. Le couperet tombe brutalement sur l'emploi en dépit d'un plan d'aide de 15 milliards d'euros qui ne joue d'évidence qu'un rôle marginal d'amortisseur de la crise. Pour les spécialistes, en effet, un retour du trafic aérien à ces niveaux d'avant l'épidémie n'est pas attendu, pointe la Dépêche, avant 2 ou 3 ans. Le pire est donc peut-être à venir.
Et puis dans la presse, les nouveaux visages de l'écologie. Libération nous dresse ce matin le portrait des nouveaux maires verts.
Jeanne Barseguian, du droit de l'environnement à la mairie de Strasbourg. Léonore Monconduit, du scoutisme à la mairie de Poitiers. Anne Vigneault, du CNRS à la mairie de Besançon. Grégory Doucet, de l'humanitaire à la mairie de Lyon. Ou encore Pierre Urmic, du cabinet d'avocats à la mairie de Bordeaux. Alors, commente Libération, renouveau dans les idées, dans les programmes, mais aussi dans les ascensions qui changent des carrières programmées du Sérail. Révolution risquée, On en doute, affirme le journal. Les impétrantes et les impétrants se sont longuement préparés. Ils sont prêts à se colter au réel et même à passer les compromis nécessaires. La gestion d'une ville est aussi une école de pragmatisme. Voilà qui ne leur fait pas peur. D'autant qu'ils ont sous les yeux l'exemple de leur précurseur, Éric Piolle, à Grenoble. Après un mandat de 6 ans et une gestion sans à-coups, il a été réélu sans coup férir. Et Libération de conclure, la vague verte ne se retirera pas tout de suite.
Merci à vous, Frédéric Couteau. On retrouve vos revues de presse en ligne sur RFI.fr.